Bonjour et bienvenue sur Radio JBV. Aujourd'hui, nous allons interviewer les élèves de l'École nationale de Lutry. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement?
Alors, moi c'est Margot Ismar, je suis en dernière année, donc ça fait 3 ans maintenant que je suis à l'école.
Alors, pourquoi avoir choisi l'École de Lutry?
Alors, j'ai choisi l'École de Lutry puisque ça fait déjà un moment que je veux faire de la Lutry. J'ai fait 10 ans de violon avant de rentrer à l'école et j'ai toujours aimé aussi le travail manuel, j'ai beaucoup dessiné avant. Donc je me suis tournée vers ce métier assez naturellement. Et ensuite, l'école de Lutry de Mirecourt, c'est la seule en France. C'est vraiment une bonne formation qui est réputée, donc je suis venue ici directement.
D'accord. Et donc, quel travail faites-vous en atelier de Lutry?
À l'école de Lutry, on se concentre surtout sur la fabrication des instruments. La restauration, on en fait assez peu. On commence à en faire seulement en dernière année, en troisième année. On fait quelques pièces de restauration. Et puis sinon, en première année, on commence surtout à apprendre déjà le travail du bois. Moi, par exemple, j'avais joué beaucoup d'instruments, j'avais joué beaucoup de violon, je venais d'un conservatoire, mais j'avais jamais vraiment travaillé le bois, donc j'avais vraiment besoin d'apprendre tout ça. Donc on commence par créer ce bagage-là, et ensuite, petit à petit, on fait aussi un alto en deuxième année, ensuite en troisième année, on a des projets un peu plus complexes, on fait aussi un violoncelle. Voilà.
Et donc en parlant du projet, vous avez un projet de fin d'année, un grand projet?
Alors moi cette année du coup je vous parlais de violoncelle. Alors on fait pas tous des violoncelles, moi par exemple je fais 2 violons que je suis allée relever au musée de la musique de Paris. Donc c'est 2 Stradivarius, j'ai eu la chance de les tenir dans mes mains, donc c'était un super moment. Et donc c'est deux violons de la période d'or, mais qui sont quand même à des dates assez éloignées pour pouvoir un peu faire des comparaisons, voir un peu l'évolution dans son travail. Mm-hmm. Donc tout ça, je vais en parler dans le mémoire qu'on doit écrire aussi tout au long de l'année. Voilà, je pense que c'est vraiment l'année la plus intéressante.
D'accord.
De devoir écrire tout ça.
Nous accueillons maintenant une autre élève de l'école de Lutry. Vous pouvez vous présenter?
Bonjour, alors moi je m'appelle Marie Chambray, je suis actuellement en DMA2. À l'école. Et j'ai 21 ans.
D'accord, ok. Vous pouvez nous dire comment s'organisent les cours en Lutry, tout ça?
Oui, alors du coup, on a 20 heures d'atelier par semaine. On a aussi des cours généraux, donc de la musique, du français, de l'économie, de l'anglais. Et en deuxième année, on a également de la physique-chimie. Et voilà.
D'accord. Et avec la crise sanitaire actuelle, comment vous procédez, comment vous faites avec le télétravail, comment ça s'organise tout ça?
Eh bien, ça n'est pas compliqué, on n'a pas de télétravail. Donc, on a toujours eu quasiment cours à l'atelier, sauf l'année dernière quand on a eu le premier confinement. Là, on était chez nous, on a dialogué avec les profs par mail. Donc, moi, j'ai envoyé des photos de mon travail, de pièces d'exercice, tout ça. Et c'est tout. Sinon, après, on a repris tout le temps à l'atelier en présentiel avec les masques. Et c'est tout. Donc, on a été plutôt chanceux à ce niveau-là. Et on croise les doigts pour que ça continue.
D'accord. Est-ce que vous continuez le travail après les cours?
Du coup, oui, forcément. Il y a tout un travail de recherche, surtout pour mon année de DMA2. Donc, j'ai énormément de travail de recherche à faire pour le papier. Et puis aussi, je prépare mes pièces à l'avance. Donc il y a beaucoup de gabarits à faire pour les instruments. Il y a beaucoup de pièces en fait que je fais déjà une fois moi toute seule chez moi pour m'entraîner et pour arriver à l'atelier et pour avoir les gestes un peu plus, enfin mieux acquis quoi. Donc du coup oui, chez moi le soir je travaille et on fait des tests de vernis tout ça. Donc c'est hyper important de travailler tout au long de la semaine chez soi.
D'accord. Et qu'est-ce que c'est le DMA2?
Alors le DMA2, du coup, c'est la dernière année de l'école. Donc on commence avec un CAP, après le DMA1, puis le DMA2. Et en DMA2, on prépare notre diplôme pour sortir de l'école. Et donc pour ce diplôme, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'inspirer d'un modèle qu'on choisit, nous, d'un instrument. Et donc on va aller faire toutes les mesures, en fait, tous les relevés de l'instrument, en DMA1, et puis ensuite on arrive en DMA2, et donc soit on fait 2 violons, soit on fait 1 violoncelle, soit on fait 2 altos. Et on a aussi un mémoire donc sur l'historique de l'instrument, l'historique de l'auteur en question, et sur toute la partie fabrication. Pendant toute l'année, on explique toute la fabrication de l'instrument. Et à la fin, on a une soutenance à présenter devant un jury sur notre mémoire et sur les instruments en question. Voilà.
D'accord. Quels matériaux sont utilisés pour fabriquer les instruments et quels outils vous utilisez ?
Alors pour les instruments, on va utiliser trois types de bois de manière générale. Donc l'épicéa pour la table, le devant de l'instrument. L'érable ondé pour tout le reste, en fait, les éclisses, le fond et la tête. Et on va utiliser un peu d'ébène aussi pour la touche, voilà, là où on pose les doigts. Après, il y a les cordes qui sont en métal, quoi, mais il y a très peu de... Enfin, c'est quasiment que du bois. Et sinon, les outils, on utilise des petits rabots, des gouges, des ciseaux à bois. Voilà, en gros, c'est ça les trois familles d'outils les plus importantes.
Bienvenue à vous, du coup, deux nouveaux élèves de l'école. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Ouais, alors moi, je suis Alexis, j'ai 21 ans et je suis dans la classe de DMA1, donc la deuxième année à l'école de Lutry.
Et moi, je m'appelle Lucille et je suis aussi en DMA1, comme Alexis.
Et j'aimerais savoir si vous avez un emploi du temps chargé.
Du coup, on a 20 heures de Lutry par semaine, donc 20 heures qu'on passe à l'atelier et une très bonne dizaine d'heures de cours généraux à côté. En tout genre.
Du coup, ça reviendrait à combien d'heures par jour ?
Par jour ?
Ben, les lundis, mardis, mercredis, on a 9 heures de cours. Et puis après, les jeudis et vendredis, on a cours le matin. Mais l'après-midi, le jeudi, on a cours d'instrument.
Merci.
Et pour rebondir sur les cours d'instrument, donc combien vous avez d'heures de cours d'instrument par semaine ? De quels instruments jouez-vous et comment ça se déroule pendant ces cours ?
Alors, en lien avec notre formation, on est obligé de choisir un instrument du quatuor à cordes ou plusieurs. Donc, moi, j'ai un cours de violon. Alors, suivant le niveau qu'on a, si on est débutant, on a une demi-heure de cours. Puis après, quand on sait un peu mieux jouer de l'instrument, on a une heure de cours. Donc, suivant si c'est un instrument qu'on pratique depuis des années avant l'école ou si c'est une découverte.
D'accord.
Et du coup, ouais, moi, en première année, j'ai joué du violon et de la contrebasse, donc pour la première fois. Et c'était une demi-heure par semaine par instrument, donc une heure de pratique au total cette année et l'année dernière.
Et pour vous, Alexis, alors ?
Donc moi, j'ai fait deux instruments dans la première année à l'école, donc du violon et de la contrebasse, avec une demi-heure de cours par instrument et par semaine. Et cette année, j'ai décidé de choisir que la contrebasse et c'est passé à trois quarts d'heure, une heure par semaine.
D'accord.
Et nous accueillons le professeur de Lutry, monsieur Nicosia. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avoir choisi le métier de professeur de Lutry ?
Eh bien, parce que je me suis aperçu très rapidement que j'aimais montrer, expliquer, transmettre. Donc c'est un choix un peu radical, mais j'ai assez rapidement choisi cette option. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime aussi Mirecourt. J'avais envie de revenir m'installer à Mirecourt. Donc voilà, pour l'ensemble de ces raisons.
D'accord. Et je pense du coup que pour vous, le travail de professeur de Lutry est très plaisant.
Tout à fait. De plus en plus d'ailleurs. J'aime beaucoup voir les élèves apprendre, s'approprier les techniques. Grandir dans la sensibilité, dans la maîtrise de leurs outils. Chaque année, je découvre une nouvelle promotion avec des personnalités riches, différentes, etc. Donc c'est un vrai plaisir. Et c'est un plaisir aussi sur le long terme de voir les anciens élèves que j'ai vus passer donc à l'école et qui sont aujourd'hui installés, qui sont des grands monsieur ou des grandes dames de la lutherie pour certains, ou de tout simplement de bons luthiers. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir participé un peu, mis sa petite touche dans cet univers professionnel.
D'accord. Et combien de temps faut-il pour fabriquer un instrument et quel est son coût au total ?
Alors, on va prendre l'exemple d'un violon. Pour fabriquer un violon, un professionnel va mettre en moyenne un mois de travail, 150 heures à peu près, comme ça. Et son coût, un violon fait par un maître luthier, on va dire, aujourd'hui, va se vendre aux alentours de 8 à 12, 15 000 euros. Donc la somme peut paraître relativement élevé a priori. Mais évidemment, il faut comprendre que quand on vend un instrument, quand un luthier vend un instrument 10 000 euros, ce n'est pas 10 000 euros qu'il met dans sa poche, qu'il va pouvoir dépenser à sa guilde. Dans les 10 000 euros, il y a le prix du bois qu'il a acheté en général plusieurs années avant. Donc c'est une immobilisation de budget, oui, c'est ça. Il y a les frais inhérents à son atelier, s'il loue un atelier, par exemple, dans une ville. Il y a son salaire, évidemment. Il y a la taxe, il y a à peu près 20% sur un tout objet qu'on fabrique et qu'on vend, qu'on redonne à l'État. Donc, en fait, on part de 10 000 euros. Vous enlevez tout ça au fur et à mesure. Ça revient à un salaire tout à fait... Puis si vous n'êtes pas sûr de vendre un instrument, ça ne tombe pas tous les mois. Il n'y a pas un musicien qui vient tous les mois chercher un instrument. Donc, une fois qu'on a fait un instrument, il faut encore arriver à le proposer à des musiciens et trouver preneur. Il faut qu'ils trouvent preneur.
Comment vit-on du coup du métier de luthier ?
Alors, en fait, l'activité de luthier, on peut la décliner sous différents angles, si on peut dire. Il y a bien sûr la fabrication et la vente d'un instrument qu'on fabrique entièrement. Ça, c'est un aspect. Il y a la réparation des instruments qui sont utilisés par des musiciens professionnels ou amateurs et qui, du fait de leur usage, vont s'user, peuvent avoir un accident, tomber, avoir une fracture, un décollage, etc. Donc il faut un luthier pour entretenir les instruments qui sont utilisés par les musiciens. Il faut aussi des restaurateurs, c'est-à-dire des gens capables de remettre en état des instruments considérés comme instruments du patrimoine, des instruments anciens. Quand on joue encore sur des violons qui date de 1700, 2600, etc. Donc c'est un peu l'exception ça, mais il faut des gens capables de restaurer ces instruments-là, donc restaurateurs. Il y a des experts aussi, quelques experts, c'est une minorité, mais il y a des luthiers experts. Donc on trouve chez soi, ou on a à la maison un violon qui a appartenu à un ancêtre de la famille, et on voudrait en connaître sa valeur, on va voir un expert qui va... authentifier l'instrument, l'identifier, l'authentifier, en estimer la valeur et produire un certificat d'authenticité avec photo, descriptif et une estimation de la valeur. Ça, c'est l'expertise. Bon, ça concerne une très petite minorité de luthiers. Hein. Et puis, l'achat et la revente de... La location aussi, c'est un service qui est proposé à beaucoup de musiciens, de plus en plus. Typiquement, on veut débuter le violoncelle ou la contrebasse. On n'a pas forcément envie d'acheter tout de suite un instrument parce que ça coûte cher. Donc on a envie d'essayer un peu, se rôder, voir si ça plaît ou pas. On va louer un instrument. Alors c'est pas très cher au mois. Ça veut dire que le luthier, lui, doit acheter des instruments, les mettre en état, les proposer à la location et gérer ce service-là. Donc achat, vente, location, remise en état, restauration, expertise, neuf. Réglage. Aussi, c'est un peu un truc à part. C'est-à-dire, le musicien a un instrument qui n'a pas de problème particulier, pas de fracture, pas de cassure, ni rien, mais le son n'est pas satisfaisant, n'est pas au goût du musicien. Donc le musicien demande au luthier de régler, faire un réglage sur son instrument. Et parfois, ça peut être très très subtil, parce que sur un violon, c'est un peu organique. Un violon, ça ne se règle pas comme une guitare électrique avec des vis de réglage. Donc il faut intervenir de façon très très particulière sur le chevalet, l'âme, pour optimiser le son et le rendre au goût du musicien.
J'aurais aimé savoir s'il était possible de commander des instruments directement à l'école de lutherie.
Alors, ça ne s'est jamais fait encore. Dans l'absolu, oui, ça serait possible. Ce qui se fait, c'est que les élèves fabriquent des instruments en première année, en deuxième année, en troisième année. En général, ils rachètent une partie ou la totalité des instruments qu'ils ont fabriqués. Mais il y a toujours des élèves qui décident de ne pas racheter leurs instruments. Donc on a des instruments en stock, on va dire, et qui sont souvent vendus, parfois vendus soit à des luthiers, soit à des musiciens. Ça arrive aussi.
D'accord. Je vous remercie beaucoup, ainsi que tous les élèves de l'école qui ont participé. Voilà.